prie donc d'incliner vos têtes une fois de plus dans la présence du Seigneur et d'implorer sa grâce, car nous avons besoin que le Saint-Esprit rende nos cœurs malléables, rende nos cœurs disponibles à recevoir, à accueillir cette parole qui reste et demeure une véritable nourriture pour nos âmes. Dieu se révèle à travers sa parole. Dieu nourrit notre foi par sa parole. Dieu nous fait croître à tous égards devant lui, par et au travers de sa parole. Et nous voulons que cette parole puisse trouver des cœurs bien disposés. Seigneur, comme nous venons de le chanter, nous voulons implorer ta grâce pour que tu nous aides, Seigneur, à demeurer dans tes voies, pour que, Seigneur, nous restions attachés à toi et poursuivions ainsi notre marche dans la sainteté. Tu nous appelles, Seigneur, à mener une vie d'obéissance à ta parole. De cette manière, ô Dieu, que nous pouvons te manifester notre amour. Tu le dis dans ta parole, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, alors vous m'aimez. Seigneur, apprends-nous à t'aimer en menant une vie d'obéissance à ta parole. Apprends-nous, ô Dieu, à marcher dans tes voies, en étant mû, en étant activé, en étant porté, conduit par ton Saint-Esprit. Merci pour tout, pour ce moment de louange et d'adoration, pour cette opportunité, Seigneur, qui nous a permis de nous approcher de toi. Seigneur, toi, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, nous approcher de toi, toi, notre Père, nous approcher de toi par et au travers du Christ, pour te rendre ce qui t'est dû de toute éternité. Merci d'avoir une oreille attentive à l'expression de nos sentiments par des chants, par des cantiques. Merci d'avoir accueilli favorablement, Seigneur, tout ce qui est sorti de nos cœurs, des cœurs purifiés dans le sang du Christ, des cœurs libérés de toute impureté, des cœurs libérés de toute culpabilité. Et tout cela est monté vers toi comme un parfum, Seigneur, d'une odeur agréable à toi. Merci pour tout. Parle-nous. Seigneur, aide-nous à grandir, ô Dieu, dans notre relation avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien, nous allons donc revenir sur notre thème, à savoir marcher dans l'amour à l'instar de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Marcher dans l'amour à l'exemple, à l'image de Jésus-Christ. Nous l'avons lu en plus d'une fois, il est donc question d'être des imitateurs de Dieu, et cela à tout point de vue. Alléluia. Et si nous voulons connaître Dieu, celui qui est le Créateur de toutes choses, nous avons tout intérêt à être en Christ. Car c'est par Jésus, au travers de Jésus, que ce Dieu Tout-Puissant, c'est El Shaddai, c'est Dieu qui, par sa seule volonté, a appelé à l'existence de choses qui n'existaient point. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. C'est Dieu qui éprouvait du plaisir à descendre dans le jardin d'Éden pour avoir un moment de communion avec Adam et Ève. C'est Dieu qui a marché avec Enoch, qui au terme de cette marche, de la marche de cet homme, eh bien, l'enleva pour le faire entrer dans sa gloire. C'est Dieu qui un jour s'est révélé à Moïse, à Abraham alors qu'il était en Chaldée, et c'est Dieu-là qui s'est révélé à Moïse, bref, à travers Israël. Eh bien, ce Dieu ne peut être connu que par et au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous l'avons vu, et je me permets de vous le rappeler. Nous ne pouvons pas connaître ce Dieu-là si nous n'avons pas une relation intime, une relation vivante, une relation pratique, existentielle avec lui. C'est donc au travers de cette relation que nous pouvons marcher. Marcher dans l'amour. Cet amour, eh bien, que Christ est venu révéler au monde. Nous allons lire très rapidement notre premier passage, nous allons le lire, le relire encore. L'objectif ici que je poursuis, c'est que ces paroles des Saintes Écritures finissent par se cristalliser dans vos consciences, finissent par prendre toute la place dans nos cœurs. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est dans sa nature d'être amour, alléluia. Tout ce qu'il fait pour nous, même lorsqu'il permet les preuves, eh bien il le fait toujours par amour, alléluia. C'est l'une des plus grandes révélations du Dieu de la Bible à l'humanité. Et cet amour a atteint son paroxysme, eh bien, dans l'envoi sur cette terre de son Fils bien-aimé et dans la mort de ce dernier sur la croix de Golgotha. Là, l'amour de Dieu a atteint le paroxysme, son apogée. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu, je viens de le dire, a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde, comme preuve extraordinaire, incommensurable de son amour pour l'humanité. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. Et enfin, Éphésiens 5, les deux premiers versets. Soyez donc les imitateurs de Dieu. Nous devons imiter Dieu en tout, et dans ce domaine particulier, qui est donc l'essence même de son être, à savoir, Dieu est amour. Oui, soyons des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Amen. Gloire au Seigneur. Je reviens une fois de plus, mes amis, à ce message dont la pensée principale n'est autre que cette invitation que le Seigneur nous adresse à marcher dans l'amour, non pas comme telle ou telle autre personne aurait marché dans l'amour, mais à marcher dans l'amour comme lui a vécu, comme lui a marché dans l'amour. Alléluia. Marcher dans l'amour à l'instar du Christ, lui notre modèle par excellence, lui notre référence absolue. Lui qui est venu apporter une révolution ici-bas. Cette révolution qui consiste non plus à aimer son prochain comme on s'aime soi-même, mais plutôt à aimer son prochain comme lui, le Seigneur, nous aime. Oh, alléluia. Et par ce nouveau commandement, le Seigneur a mis la barre très haut. au point où personne sur cette terre ne peut, par sa seule volonté, par son seul désir, mes amis, arriver à ce standard-là, c'est-à-dire aimer comme le Seigneur nous a aimés. Il est donc important que nous le comprenions, que cet amour ne peut être vaincu que dans la mesure où nous nous abandonnons entièrement entre les mains du Seigneur. Et là, je reviens une fois de plus à cette nécessité qui nous accompagne depuis maintenant plusieurs mois, à savoir l'importance de jouir, d'avoir une relation de plus en plus intime et profonde avec Dieu. Car plus notre relation sera grande, sera puissante, plus nous lui manifesterons notre amour par des gestes concrets. Alléluia. Car l'amour de Dieu n'est pas un amour théorique ni platonique. Quand on parle de l'amour, c'est qu'il y a des gestes à partir desquels nous pouvons dire que Dieu est amour. On n'a qu'à regarder tout autour de nous. On n'a qu'à regarder à notre propre vie. On n'a qu'à regarder à cette terre que nous sommes en train de malmener à cause de la convoitise et de la cupidité qui fait que nous consommons de plus en plus et avec des conséquences terribles sur les écosystèmes. On n'a qu'à regarder cette terre, la terre bleue que le Seigneur a donnée à l'homme, cette terre qui répond à des lois physiques que lui a établies et sur lesquelles il veille, la terre dont il est le protecteur, car la terre, dans son parcours, mes amis, autour du soleil, et de par sa position dans le cosmos, est exposée à toutes sortes de dangers qui peuvent venir, mes amis, et détruire toute forme de vie sur cette terre. Ces dangers peuvent venir du soleil. Le soleil peut se réveiller et puis nous envoyer des vents solaires destructeurs au point de tout détruire ici-bas. Cependant, cela n'arrive pas encore ou ne peut pas arriver tant que lui ne l'a pas permis, parce qu'il y a une main invisible qui veille sur cette terre, qui fait que la terre reste sur son orbite pour permettre à chacun de nous, eh bien, de mener une vie calmement, simplement, sereinement. Alléluia. Et donc cet amour, comme nous l'avons vu, est un amour qui est donc caractérisé d'une part par cette notion d'offrande et d'autre part par cette notion de sacrifice. Alléluia. C'est donc une double caractéristique de cet amour. Marcher dans l'amour du Christ qui nous a aimés et s'est livré à son Père en offrande et en sacrifice comme un parfum d'une odeur agréable. Alléluia. Donc c'est un amour qui n'a rien à voir avec toutes ces formes d'amour entre guillemets, toutes ces parodies ou ces caricatures d'amour tel que nous le trouvons dans notre monde. C'est donc un amour qui nous vient tout droit d'en haut, qu'on ne peut pas glaner, ramasser quelque part sur cette terre, qui n'a rien à voir avec tout ce que nous appelons amour, l'offrande, les sacrifices. Voilà ce qui caractérise cet amour dont les dimensions échappent à toute compréhension humaine. Nous l'avons lu la fois dernière, la prière de l'apôtre Paul en faveur des bien-aimés de l'église d'Éphèse. Mais par-delà l'église d'Éphèse, c'était sa prière aussi pour l'église tout entière. Et dans sa prière, eh bien, il parle de l'amour en lui donnant des dimensions afin de permettre à l'homme de réaliser la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de cet amour. C'est donc un amour à multiples dimensions et dont les dimensions nous échappent. Et cet amour caractérisé par l'offrande, par le sacrifice. Et quand nous parlons d'offrande et de sacrifice, eh bien nous parlons de gestes concrets. Alléluia. Nous l'avons lu. En ceci, nous savons que Dieu nous a aimés. En ce qu'il nous a donné, oh alléluia, en ce qu'il a envoyé son Fils. Et donc, l'envoi du Fils de Dieu par son Père, ici sur terre, la mort de Jésus en croix, en portant nos fardeaux, nos malédictions, nos péchés, notre rébellion, notre culpabilité, Eh bien, tout cela sont des preuves tangibles, des preuves objectives que Dieu nous aime. Alléluia. J'aurais attendu un « Amen » plus que pentecôtiste. Et voilà, il y a au moins un pentecôtiste là. Donc, offrande et sacrifice. Et très rapidement, nous avons souligné, mis en évidence, la différence à cette notion d'offrande et cette notion de sacrifice. Très rapidement, donc quand on parle de sacrifice, au fait, on parle d'immolation d'animaux. Dans l'Ancien Testament, eh bien, on devait sacrifier régulièrement. Le sang des animaux devait couler. Et donc, par rapport à ça, on parle de sacrifice. Donc, tout ce qui est sanglant. Et par ailleurs, la notion de, comment, d'offrande, elle est réservée spécialement aux oblations, aux offrandes, si je peux me répéter, non sanglantes. Voyez-vous, donc l'Israélite, eh bien le peuple de Dieu dans l'ancienne alliance, ne pouvait pas se présenter devant Dieu avec des mains vides. Quand il s'approchait de Dieu, il devait lui apporter quelque chose, soit en reconnaissance pour telle ou telle autre bénédiction, soit pour sa culpabilité, soit pour telle ou telle autre bénédiction. En tous les cas, il ne pouvait pas s'approcher de Dieu comme ça, les mains vides, dans la main, dans la poche, en train de s'y flotter. Voyez-vous? C'est ainsi que tout l'Ancien Testament baigne, mes amis, dans toutes ces réalités de sacrifices et d'offrandes. C'était régulier, c'est constant, c'est récurrent. Si vous amorcez un pèlerinage à travers l'Ancien Testament, vous allez tout de suite vous en rendre compte. Donc, les dons, les offrandes, les sacrifices étaient permanents. Et gloire au Seigneur. Et par rapport aux offrandes et aux sacrifices, j'ai dit qu'il y a un verbe qui est utilisé et qui fait partie du langage, du vocabulaire, comme un sacerdotal. C'est le verbe offrir. Oh, alléluia. On offre un sacrifice. On offre une oblation. Pour ne pas se répéter, on offre une oblation, une offrande. Hein. C'est pareil. Donc, et ce verbe-là, en hébreu, c'est le verbe karab, qui signifie ceci, s'approcher et faire approcher. Voilà le cœur de cet amour dans lequel nous sommes appelés à marcher, s'approcher. Il fallait d'abord s'approcher de Dieu avant de lui faire approcher son don, son offrande, son sacrifice. Et la Bible nous dit, marchez, soyez les imitateurs de Dieu comme ses enfants bien-aimés. Et puis, la Bible nous poursuit, marchez dans l'amour. À l'instar de Jésus qui nous a aimés et qui s'est livré en offrande et en sacrifice. Pour payer le prix de notre rachat, puisque tous, étant pécheurs et privés de la présence, privés de la gloire de Dieu, pour rendre possible la réconciliation de l'homme avec son Créateur, eh bien Dieu nous a donné. Oh, alléluia. Dieu a posé un geste. Dieu s'est approché de nous par Jésus-Christ, au travers de Jésus. Alléluia. Et le don de Dieu, Jésus-Christ, qui est la manifestation parfaite de l'amour de Dieu, lui aussi nous a démontré son amour en ce qu'il s'est approché de nous en posant sa vie sur l'autel de Golgotha, à savoir la croix. C'est donc la plus grande preuve qui soit que Dieu nous aime. Nous ne voyons pas l'amour de Dieu dans la création des anges. Voilà. On ne peut pas déduire et dire que Dieu est amour parce qu'il a créé les anges, il a créé les archanges, parce qu'il a créé ce cosmos qui donne du tournis à l'homme, parce qu'il a créé la terre, enfin bref, le soleil et tout ça. Nous ne pouvons pas dire et déduire que Dieu est amour en regardant simplement ces choses. Il a créé toutes choses pour son seul plaisir. Alléluia. Mais, c'est dans l'envoi du Fils. qu'il montre à l'humanité qu'il aime l'homme. Alléluia. Donc si vous voulez connaître Dieu, tournez-vous vers la croix. Et là, la croix, vous voyez l'amour du Père s'exprimer pour l'homme, envers la race humaine. Alléluia. Quand Jésus nous demande de porter notre croix, certes, on parle de la mort à nous-mêmes, mais c'est aussi un moyen de regarder tout autour de nous et dans notre vie, par et au travers de la croix. Car à la croix, tout a été accompli. À la croix, le ciel et la terre se sont unis. Alléluia. Se sont retrouvés. À la croix, il a tout fait. Donc, l'amour de Dieu est pratique. L'amour de Dieu est quelque chose de tangible. Ce n'est pas théorique. On s'approche de lui, non pas pour rester silencieux comme une carpe, comme on dit. Vous connaissez ce poisson, la carpe. On ne s'approche pas de Dieu pour garder le silence comme un enfant dans le ventre de sa mère qui ne peut pas s'exprimer alors même qu'il a une bouche. Mais on s'approche de Dieu pour faire approcher quelque chose. Et ce quelque chose-là exprime notre amour pour lui. Alléluia. Et ces deux mouvements se suivent. S'approcher de Dieu et puis faire approcher son offrande. Et aujourd'hui, nous avons, au-delà d'autres choses que nous offrons au Seigneur, notre louange est une offrande, nous reviendrons là-dessus. Voyez-vous, Hébreu nous en parle. Offrir les sacrifices de louange à notre Dieu. Nous offrons pas mal de choses. La Bible nous encourage à offrir nos corps comme des instruments de justice, n'est-ce pas? Au lieu d'utiliser ses mains pour égorger les gens, pour battre votre épouse ou même votre mari. Au lieu d'utiliser ses mains pour gifler, donner des baffes à tout vent. Nous devrions utiliser ses mains pour la gloire du Seigneur. Au lieu d'utiliser ses pieds pour aller n'importe où, courir la prétentaine, marcher dans des voies du péché, de l'orgueil, du vol, utiliser ses jambes pour aller voler, utiliser ses jambes pour tromper son mari ou sa femme, utiliser ses jambes pour aller commettre le péché, eh bien la Bible nous encourage à utiliser ses membres pour sa gloire. Offrir nos corps comme sacrifice. Nous y reviendrons. Voyez-vous? Et donc, l'amour de Dieu se manifeste par des gestes. Et ces deux mouvements sont sous-tendus par une vérité importante. C'est-à-dire la sainteté. Soyez saints comme je suis saint. Comment voulez-vous approcher Dieu si vous n'êtes pas comme lui? Comment voulez-vous approcher Dieu si vous n'avez pas de relation avec lui? On ne peut approcher Dieu que dans la personne et à travers la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, tout converge vers lui. Si nous l'aimons, aimons son Église. Si nous l'aimons, eh bien, aimons son œuvre ici-bas. Il a dit, je bâtirai mon Église. Rien ne prévaudra contre elle, même pas les portes du séjour des morts. Le port du Hadès, c'est ce qu'il a dit. Comment prétendre aimer le Seigneur plus qu'aimer son Église? Vous voyez, l'amour auquel le Seigneur nous appelle est un amour concret qui se manifeste par ses gestes. Et dans cette relation avec Dieu, nous nous approchons de lui. Tout à l'heure, nous nous sommes approchés de lui pour lui exprimer nos sentiments de louange, n'est-ce pas? Nos sentiments de joie, nous lui exprimer comment nos prières, d'une manière ou d'une autre. Voyez-vous? Mais il a fallu d'abord s'approcher de lui. Et puis ensuite lui faire approcher. Cela est important. Car l'amour s'exprime, alléluia, par des gestes concrets. L'amour se traduit par une obéissance concrète au commandement de Dieu. Nous aimons Dieu dans la mesure, mes amis, où nous marchons dans sa parole. Jean 14, 21 nous dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, voyez bien, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Celui qui a mes commandements, voyez-vous, celui qui les garde. Garder les commandements de Dieu, c'est obéir à ses commandements. Et dans sa parole, nous trouvons beaucoup de commandements. Et en obéissant à ce commandement, eh bien, nous manifestons notre amour à Dieu. Oh, alléluia. En obéissant à ce commandement, eh bien, nous marchons dans l'amour, à l'instar de Jésus-Christ. Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie, qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean 3:16. Voyez-vous? Et donc, l'amour s'exprime par des actes concrets. C'est à partir des actes que nous pouvons dire que j'aime Dieu. Et nous avons là un projet. Un projet en rapport avec la volonté de Dieu. Car Dieu a besoin d'un lieu où nous pouvons nous rassembler pour le louer en toute liberté. Un lieu où nous pouvons organiser toutes sortes de réunions pour permettre aux uns aux autres de grandir, de croître dans sa volonté. Un lieu où les captifs viennent et sont délivrés de leur captivité, de leur esclavage et repartent complètement libres. Un lieu où les gens ont une vie, des gens dont tout dans leur vie est en panne. Vous savez, il y a des gens, toute la vie est en panne. C'est terrible, hein? La vie est en panne. La vie affective, en panne. La vie conjugale, en panne. La vie professionnelle, en panne. La vie politique, en panne. Voyez-vous? La vie académique, étudiantine, en panne. Professionnelle, il y a des gens qui sont tout le temps en panne et qui sont en panne. Comment vous pouvez être dépanné par celui qui est assis sur le trône? Donnez-lui l'occasion d'agir dans votre vie. Marchez dans ce commandement. Que nous dit-il dans ce commandement? Apportez à la maison du trésor, à sa maison, toute dîme, afin qu'il y ait de la provision dans ma maison. Que nous dit-il? Approchez-vous de moi et offrez-moi ce que vous avez de plus précieux, c'est-à-dire notre vie. Mais quand nous parlons de notre vie, c'est vague, hein? La vie de l'homme est très complexe. Elle est constituée de plusieurs facettes, oui ou non? De plusieurs domaines. Alors quand nous disons, offrons à Dieu notre vie, eh bien, offrons-lui toute la vie avec ses différentes facettes. Offrons-lui notre vie spirituelle. Offrons-lui notre vie conjugale. Offrons-lui notre jeunesse. Offrons-lui notre travail. Offrons-lui nos affaires. On ne peut pas dire j'aime le Seigneur. Il est mon Seigneur, en même temps gérer ses biens comme si vous étiez vous le Seigneur et que lui était là simplement comme un invité qui vous regarde. Comment vous gérez les choses qu'il vous a données? Soyons de simples intendants de tous les biens que le Seigneur nous a confiés. Mes amis, nous avons ici l'occasion de convertir les biens que le Seigneur nous a donnés en des biens spirituels. Car tout geste posé pour le Seigneur, en faveur de son œuvre, la dîme, l'offrande, une libéralité quelle qu'elle soit, un don généreux, tout cela est comme de la semence qu'on jette dans la terre du royaume de Dieu. Tôt ou tard, cette semence germera et produira du fruit. Alléluia. Donc, l'amour de Dieu, elle est concrète. Il est concret. L'amour de Dieu s'exprime, s'est traduit. Je peux dire que Dieu m'aime. À chaque fois que je regarde à ma vie, je peux voir la bonté de Dieu, sa bienveillance. Comment il m'a gardé depuis le sein de ma mère. Comment il m'a protégé pour m'amener à lui et puis faire de moi ce que je suis, si tant est que je sois quelque chose. Vous voyez? Je peux dire que ça, c'est Dieu. Dieu m'a aimé. Alléluia. Vous voyez? J'ai l'habitude, le samedi, c'est le jour de Shabbat pour moi. C'est pourquoi ne m'envoyez pas de messages. Si c'est vraiment le, si c'est le, lorsque le Seigneur vous le demande. Bon, quelquefois vous ne savez pas, bon, je me permets de répondre, alors je ne réponds pas du tout, c'est que je suis trop puissant. C'est la veille d'un grand jour. C'est moi et le Seigneur. Mon épouse le sait. Tous ceux qui viennent chez moi sont tenus à cette discipline. C'est le jour où je circule, tout en ayant le Seigneur dans ma bouche et dans mon cœur, où je réfléchis. Qu'est-ce que je vais dire? Seigneur, est-ce vraiment ça que je vais dire? Alors, si je dois le dire, donne-moi les mots pour que les gens ne puissent pas mal comprendre et puis finir par mal se conduire. Et c'est aussi un jour où je fais la rétrospective de la semaine. Je passe en revue toute la semaine depuis le dimanche, puisque le dimanche c'est le premier jour de la semaine, vous le savez, non? Je ne vous apprends rien de neuf. Eh bien, je passe en revue depuis dimanche, là en prière, comment le Seigneur a été avec moi au culte, il m'a fait la grâce d'être avec vous, de louer, de prier ensemble avec lui, comment il m'a fait la grâce d'être un simple outil entre ses mains pour la bénédiction, la croissance de son peuple. Et puis le lundi, c'est mon jour de repos, et puis je revois tout ce que Dieu m'a fait, a fait pour moi, j'ai mangé, j'ai fait mon activité physique, et puis le mardi, si je suis monté à l'église ou alors j'ai travaillé à la maison, je vois tout ça, et puis le mercredi, et puis le jeudi, comme le jeudi dernier, j'ai eu des moments, et puis le soir, on a eu une séance de travail avec les membres, quelques membres de la commission, chargé de la construction du temple, et puis le vendredi, je suis venu à l'église, on a eu des bons moments, etc., et puis je suis rentré, j'ai bien mangé, je me suis bien reposé, et puis le samedi, Seigneur, tu m'as réveillé. Mais il m'arrive aussi d'aller au-delà de la semaine, de faire un petit bond en arrière, de me voir quelque part quand j'étais jeune, de me voir quelque part quand j'étais encore dans le monde comme tant d'autres, de voir des amis avec qui on a fait mille et un cours, des amis avec qui on a marché quelque part à Kikula, à Likasi, j'en devine tout ce que vous voulez, et dont certains ne sont plus de ce monde, et dont certains sont partis malheureusement sans avoir eu l'occasion de rencontrer Dieu. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait de spécial pour t'avoir rencontré un jour. Et là, je vois la grâce de Dieu. Et donc, ça, ce sont des preuves tangibles. Ne versez pas dans l'amnésie, dans l'oubli total de ce que Dieu fait ou a fait pour vous. Et d'arriver à un point où vous pensez que tout ce que vous êtes est le produit de votre intelligence, le produit de votre rang social, parce que vous êtes né dans une famille ayant un nom, parce que vous avez une généalogie qui impressionne tous les Congolais. Alors vous pensez que vous êtes parce que vous avez décidé d'être. Non! Il y a la grâce. Alors que tu n'étais qu'une masse informe dans le sein de ta mère, tu aurais pu connaître le sort de l'avorton. C'est-à-dire passer du sein maternel directement à la terre. Hein? Et pourtant, il y a eu des jambes pour t'accueillir. Et pourtant, il y a eu une femme pour te porter. Il y a eu un père pour prendre soin de toi. À travers des moments difficiles, ils étaient là pour toi. Alors, tout cela sont des preuves que Dieu t'aime, Dieu t'a aimé. Alléluia. Et nous aussi, nous devons nous présenter à Dieu en lui offrant mille et une choses. Et aujourd'hui, nous allons nous tenir devant Dieu, nous approcher de lui, puisque nous sommes déjà là avec lui, pour lui faire approcher une offrande spéciale pour la construction du temple. Alléluia. Mes amis, c'est une aventure merveilleuse. C'est peut-être l'unique occasion que le Seigneur vous donne de pouvoir contribuer à l'histoire de son Église ici, au Congo. Quand je parle de l'église, oui, il y a le bâtiment, mais il y a aussi les âmes qui pourront être gagnées en venant dans ces lieux. Des gens qui pourront grandir dans leur révélation avec le Seigneur en fréquentant ces lieux. Et là, tu auras agi de manière formidable. L'amour s'exprime. Et pour terminer, nous allons prendre le cas des mages. Les mages qui sont partis à Jérusalem, là nous sommes dans Matthieu chapitre 2, Matthieu 2. Ils sont arrivés à Jérusalem. Ils avaient été conduits par une étoile. C'était des gens qui scrutaient le cosmos. Hein. Vous savez, le cosmos, l'espace, les astres, les étoiles, les planètes. Eh bien, tout cela a toujours fasciné l'homme. Voyez. Et donc, attendez. Ils sont partis à Jérusalem. Et puis quand ils sont arrivés, enfin on leur a indiqué où le roi des Juifs venait de naître, à Bethléem, et puis ils sont partis, et verset 10, à la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie, et verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent, en cadeau, voilà leur offrande, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Ils sont allés, ils ont fait un très long voyage. Et à l'époque, c'était toujours un risque de prendre la route, parce qu'il y avait toutes sortes de dangers qui vous guettaient. Il y avait des bandits des grands chemins et tout ça. Mais ils sont quand même partis. Il fallait absolument qu'ils voient le roi des Juifs. Donc ça leur a coûté, ce voyage a été un voyage onéreux, coûteux en tout, avec tous les risques que cela comportait. Mais ils avaient une détermination. Voir le roi des Juifs qui venait de naître, le Messie promis, et en même temps lui offrir ce qu'ils avaient de plus précieux. Ils ne sont pas partis avec quelques cacahuètes d'où ils venaient, d'Orient. Ils ont dit, bon, de toute façon, ce n'est pas un problème, prenons quelques bananes, prenons quelques tubercules de tapioca ou de manioc, apportons-lui l'essentiel, que nous le voyons. Non, pour eux, il n'était pas question d'offrir au roi des rois, au seigneur des seigneurs, quelque chose qui n'était pas précieux, quelque chose qui leur avait coûté plus que de la sueur. Ils sont entrés dans la maison, ils ont vu le Seigneur, ils se sont approchés de lui, oh hallelujah. Vous voyez, nous retrouvons ces verbes. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés pour l'adorer, pour le louer. Oh, alléluia. Et puis, après l'avoir adoré, après l'avoir loué, quand il fait, eh ben, ils ont ouvert leur sac, ils ont fait sortir de l'or, de l'encens et de la myrrhe pour offrir au Seigneur de gloire. Ils se sont approchés de lui, et puis ils ont fait approcher leur offrande. Oh, alléluia. Eh bien, l'amour s'exprime en donnant, en offrant. Et dans ce mot offrir, dans ce verbe offrir, je reviens, il y a toujours ces deux mouvements qui se suivent. Voyez-vous, s'approcher et pour faire approcher. Et ce que nous offrons au Seigneur n'a de sens que si vraiment nous le faisons en étant dans sa présence. N'a de sens que si cela vient du cœur. C'est alors que notre offrande touchera le cœur de Dieu. Et quand Dieu touchait dans son cœur, croyez-moi, eh bien, il est dans la joie. Et quand Dieu est dans la joie, il devient notre force. C'est ainsi que David a pu dire, la joie du Seigneur est ma force. Alors, frères et sœurs, à l'instar des mages qui sont partis à Jérusalem pour voir le roi des rois, le Messie. Ils ne sont pas partis main vide. Nous aussi, ce matin, nous l'avions annoncé, nous avons préparé une enveloppe. Au-delà de nos offrandes que nous donnons pour la bonne marche de l'Église, au-delà de toute forme de libéralité que nous donnons, nous voulons faire une offrande spéciale. Une offrande qui exprime que nous aimons Dieu. Au point où quand nous repartirons, nous puissions avoir ce sentiment d'avoir posé un geste noble, puisque c'est un geste que nous aurons posé au nom de l'amour pour lui. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné ce travail que nous avons. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné cette intelligence qui nous a permis d'occuper les fonctions que nous occupons. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné la force de faire les affaires que nous faisons. Chaque jour, il nous montre combien il nous aime. Et le plus grand acte d'amour, au-delà du fait qu'il a donné sa vie à la croix pour nous, c'est le fait de nous avoir attirés à lui, de nous avoir fait entrer dans une relation vivante avec lui. Mais il y a aussi cet amour qui se manifeste au quotidien. Jour après jour, il nous prête son souffle vital. Jour après jour, il nous donne sa vie, celle qui nous anime. Nous sommes en vie. Voilà pourquoi nous sommes là. Cette vie-là nous vient de lui. Alors en retour, ne vaut-il pas la peine de lui exprimer notre reconnaissance? Ne vaut-il pas la peine de lui dire, Seigneur, je t'aime. Tout ce que j'ai, c'est à toi que je le dois. Alors je te donne ceci. Ou alors je prends cette souscription. Je m'engage à soutenir ce projet. Je m'engage à m'approprier de ce projet. Voyez-vous, nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout avec nos offrandes. D'abord l'offrande spéciale. Merci. Si vous avez préparé une enveloppe, ou si vous avez pris l'enveloppe que vous n'avez pas préparée, vous pouvez quand même avoir cette enveloppe par la foi en disant, Seigneur, je me tiens debout avec cette enveloppe afin que toi, tu me donnes le moyen prochainement de mettre quelque chose pour soutenir ton œuvre. Par la foi, je me tiens devant toi avec cette enveloppe vide, mais qui bientôt va être remplie de ce qui viendra de toi. Oh, alléluia. Nous allons tenir notre enveloppe et nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur d'accueillir favorablement cette enveloppe comme une preuve de notre amour envers lui, comme une preuve de notre amour envers son œuvre. Car comment aimer Christ comme il faut et ne pas aimer l'œuvre qu'il accomplit dans son Église? Cette Église à propos de laquelle il a dit « Je bâtirai mon Église ». C'est son Église. Il a un lien particulier avec son Église. Et tout ce que nous faisons pour son Église, eh bien, sachons que nous le faisons pour lui. Nous agissons par amour. Nous allons prier. Chacun prend son offrande et je vous donne l'occasion de prier. Commencez d'abord par rendre grâce à Dieu pour cette opportunité de marcher dans l'amour vis-à-vis de lui, de marcher dans l'amour vis-à-vis de son œuvre, exprimer votre reconnaissance pour ce privilège qu'il vous donne de soutenir son œuvre. Au lieu que cet argent serve à d'autres choses, même des choses légitimes, ce n'est pas un problème, mais vous avez pris la résolution de confier cet argent au Seigneur pour que cet argent puisse servir à la construction, à la réalisation du projet. Nous tenons l'enveloppe et nous levons nos mains vers le Seigneur. Et chacun prie avant que je puisse prier pour chacun de vous. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus.